Australia's leading show for bold debate is back, where difficult conversations...
We can't go there.
...meet honest perspectives.
He couldn't control her anymore, so he killed her.
All new Insight. Stream free on SBS On Demand.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, dernier épisode qui revient sur les premiers ministres les plus marquants de l'histoire de l'Australie. On va s'intéresser à la dernière grande figure marquante de la droite australienne. Il s'agit de John Howard, qui a dirigé le gouvernement australien pendant 11 ans, de 1996 à 2007, et qui encore aujourd'hui est une personne très influente sur la politique australienne. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors, comme d'habitude, c'est avec vous, historien à l'Australian National University, qu'on va voir le parcours de ce monsieur. Les deux précédents épisodes, on a parlé de figures du Parti travailliste, Bob Hawke et Paul Keating. On a vu également que ce sont des personnes qui certes sont issues de la gauche australienne, mais qui ont pas mal libéralisé l'économie sur un certain nombre de points, mais qui en revanche, sur le plan, on va dire, sociétal, étaient effectivement presque des wokistes, on dirait aujourd'hui. En tout cas, ils ont essayé de faire avancer la cause des droits aborigènes. Ils étaient tous les deux favorables également à la création d'une république australienne. John Howard, lui, c'est vraiment l'opposé total. C'est un pur conservateur.
Alors, oui, sur le plan social, il est très conservateur. Sur le plan économique, c'est un libéral. Et ça, c'est lui qui le dit, hein. C'est-à-dire que il est pour le libre-échange, le marché, donc très très libéral, peu d'État, peu d'intervention pour l'économie. En revanche, très très conservateur côté social, famille, valeurs, nation. Et donc effectivement, c'est un retour de balancier de John Howard après des années de politique assez progressiste par la gauche. Donc c'est une figure très très polarisante, qui l'était en son temps et qui l'est encore aujourd'hui. Héros pour certains et ennemi pour d'autres. Voilà.
Ouais. Oui, oui, on y viendra effectivement, mais ça fait déjà pas mal d'années maintenant qu'il est retiré de la vie politique active, mais il continue très régulièrement de s'exprimer sur de nombreux sujets et d'avoir une très forte influence sur son ancien parti, le Parti libéral. Mais on va d'abord retourner aux origines. Donc John Howard, il naît en 1939 à Sydney, dans ce qui est appelé aujourd'hui l'Inner West, c'est-à-dire la banlieue relativement proche du centre-ville. Et il est issu d'une famille plutôt modeste. Son père est le gérant de deux stations-service.
Oui, alors, il est très modeste, effectivement. Il n'est pas du tout dans la pauvreté, mais il n'est pas du tout dans l'opulence non plus. Il fait partie de la majorité des Australiens, et ce qui l'aidera beaucoup plus tard dans sa vie politique, alors que lui-même change de classe radicalement. Mais la classe de ses parents et de ses grands-parents est celle vraiment de l'Australien moyen qui veut s'en sortir. À la fois son père et son grand-père ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, donc son père l'a eu très très tard en réalité, et John Howard a plusieurs frères. Donc ils sont une fratrie, une éducation qu'il reçoit qui est assez bonne. Il est assez doué à l'école, il travaille vraiment très dur. Et assez vite, il va s'extraire de son milieu social. Sa maman aime beaucoup Winston Churchill. Et le second prénom de John Howard, c'est Winston. Donc déjà, ça vous cadre un peu la famille politiquement, hein, c'est-à-dire pour l'Empire, conservatrice, l'Australie blanche, etc. Voilà. Donc il naît dans cette Australie de l'Australie blanche encore, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un enfant qui bénéficie d'une très bonne éducation.
Ok. Alors tout ça, effectivement, ça va former un petit peu son univers idéologique. Bon, il fait ses études, il va devenir avocat. Dans le même temps, il s'engage au sein du Parti libéral dès l'âge de 18 ans. Et on est dans les années 60 et il a une position qui va vraiment à contre-courant de l'idée générale au sein de l'opinion publique en Australie, puisque lui, il soutient l'engagement de l'Australie dans la guerre du Vietnam, alors qu'on en a parlé dans de précédents épisodes, c'est très contesté par une grande partie de la population qui se demande pourquoi l'Australie s'est embarquée dans cette affaire. Et donc, il est vivement critiqué à cette époque pour, au contraire, tenir une position pro-américaine.
Oui, ce qui est paradoxal, en fait. Bon, il commence sa carrière en étant avocat, vous l'avez rappelé, plutôt avocat d'entreprise. C'est pas fantastique. Il essaye différents groupes. Et très tôt, il réalise que c'est la politique qui l'intéresse. Effectivement, il rejoint le Parti libéral en 1957, hein, donc avant même d'avoir fini ses études. D'ailleurs, il s'engage en tant qu'étudiant. Et puis, c'est là-dessus qu'il se dirige. Hein. Dès 1968, il essaye de se faire élire au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud. Donc John Howard aurait pu gagner et devenir un parlementaire moyen d'un État et rester pendant toute sa carrière au sein d'un État plutôt que celui de l'État fédéral. Et en fait, il perd cette élection en 68, mais il abandonne pas, il se fait élire en 74 et cette fois-ci au gouvernement, enfin à la Chambre fédérale, donc à Canberra. Et en parallèle de ça, effectivement, lui soutient l'engagement américain au Vietnam, qui est au début accepté par les Australiens et puis assez contesté vers la fin des années 60, début des années 70. En fait, John Howard, il est le fruit de son époque, c'est-à-dire qu'il a vu le rôle des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et que pour lui, la sécurité de l'Australie, elle s'inscrit dans le giron des États-Unis, d'une part. D'autre part, il est anticommuniste. La guerre au Vietnam, c'est une guerre idéologique et également coloniale à certains égards. Mais si vous voulez, c'est cohérent avec ses positions politiques. C'est pas quelque chose sur lequel il va gagner des voix nécessairement. Mais enfin, lui s'estime droit dans ses bottes et continuera toute sa vie de soutenir en fait les Américains. On le verra par la suite.
June 12th, the world will unite. 48 nations, 104 matches across three countries. The FIFA World Cup 2026 kicks off June 12th on SBS.
Vous l'avez mentionné, il a tenté une première fois de devenir député en 1968, ça n'a pas marché, mais il est finalement élu en 1974. À ce moment-là, on en a parlé précédemment. C'est un travailliste qui est au pouvoir, Gough Whitlam, mais celui-ci va finir par être destitué par le gouverneur général l'année suivante, en 75, et c'est à ce moment-là donc que la droite reprend le pouvoir en Australie, et à cette occasion, John Howard entre au gouvernement, alors qu'il est donc tout jeune député, et il va y rester pendant près de 10 ans, jusqu'en 83. Et au cours de cette période, il a notamment été ministre des Finances. Il a mis en place tout un tas de réformes très libérales au sens économique du terme, hein, pas au sens social. Et puis, sur la fin de ce mandat des conservateurs, l'Australie donc entre dans une période de crise économique. Est-ce que c'est le fruit des réformes mises en place par John Howard ?
Alors, on va pas le sabrer tout de suite, bien qu'il ait sa part de responsabilité. C'est une période très compliquée. C'est-à-dire que il entre à la Chambre des députés en 74, pendant le gouvernement Whitlam, donc, qui est très à gauche. C'est vraiment une révolution, le gouvernement Whitlam, on en a parlé. Donc, il est à la fois très remonté. Il a aussi parié sur le bon cheval. C'est-à-dire que avant que Fraser se présente aux élections en 75, il y avait une question sur qui serait le leader du parti entre Fraser et un autre homme de son parti. Et John Howard a soutenu Fraser et il a bien parié et en cela il a été récompensé en devenant ministre des Finances. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il est élu en 74 au Parlement, en 77 il devient ministre des Finances et il aura jusqu'en 83. Donc c'est un peu un hold-up. Et à partir du moment où vous savez que vous avez quand même beaucoup de chance, vous faites des concessions. Et ça, c'est important parce que son premier ministre, Malcolm Fraser et lui, ne partagent pas les mêmes opinions économiques. Fraser et de droite, il fait des coupes énormes dans les dépenses du gouvernement. Il réduit aussi la voilure en termes de fonctionnaires. Bon, ça là-dessus, John Howard le soutient. En revanche, quand la crise économique se profile au début des années 80, et c'est une vague qui est un peu mondiale, hein, cette si ce n'est crise, légère récession, on l'a vécu en France également, John Howard, lui, n'est pas pour une politique keynésienne de la relance. Politique keynésienne de la relance, c'est le gouvernement dépense, et donc ça crée des grands projets, et donc ça crée de l'emploi, et donc les gens consomment. Fraser, qui est de droite, accepte le keynésianisme, puisqu'il a fait quand même, il a fait ses preuves avant cela. John Howard, lui, est déjà passé à une autre matrix. John Howard est vraiment un proto-néolibéral, si vous voulez, qui pense que le marché va résoudre son problème et qu'il ne faut pas intervenir, et qu'au contraire, le marché doit être purgé. Et en cela, il est de son époque et un peu d'avant son temps. Vous savez, c'est Reagan, c'est Thatcher au Royaume-Uni. Donc là-dessus, on peut lui reconnaître un certain flair, si on se place de ce point de vue-là, hein, évidemment. On peut reconnaître que c'est absolument atroce si on est de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais enfin, John Howard voit bien qu'il y a une division qui se crée entre lui et Fraser, et que soit il doit quitter le gouvernement et remettre sa démission, et alors là, qui sait ce qui lui viendra? Soit, bon bah, il accepte bon an mal an de mener une politique économique qu'il ne soutient pas nécessairement, hein, idéologiquement, mais qui va lui permettre de rester aux commandes, au pouvoir, et de faire son trou dans le parti, et de progressivement tendre à en devenir le leader une fois que Fraser aura perdu aux élections en 83, John Howard reprend le flambeau, je crois, en 85. Donc, pour revenir à la question sur cette crise économique, elle est à la fois mondiale et nationale. C'est-à-dire que le taux d'échange du dollar est encore fixé par le gouvernement. Il faudra attendre Bob Hawke et son trésorier, son ministre des Finances Keating, pour résoudre ça. L'économie mondiale ne se porte pas très bien. Et surtout, l'économie australienne est très protégée. C'est encore une économie à la papa, bien régulée par l'État. John Howard veut libéraliser tout ça. Et c'est finalement ce que la gauche fera. On en a parlé avec les épisodes sur Hawke et Keating. Donc là-dessus, il est assez visionnaire. C'est un moment de crise, hein. Il y a le taux de chômage est à plus de 12% en 1982, l'inflation est absolument galopante, les taux d'intérêt, on n'en parle même pas. Donc c'est vraiment pas le moment d'être ministre des Finances, de mener une politique de la relance à laquelle vous ne croyez pas, tout en ne pouvant pas mettre en œuvre les réformes que vous souhaiteriez voir, parce que bah disons que voilà, ça s'inscrit à votre crédit ou débit, je ne sais pas, alors que finalement ce sont des choix qui ont été faits par Fraser. Voilà, donc on peut pas lui imputer cette crise. En revanche, on peut lui imputer c'est de ne pas avoir suivi ce que lui pensait être bon, et d'être resté dans l'ombre de Fraser pour être accroché aux Marocains et rester ministre, si vous voulez.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de ce long épisode consacré à John Howard. On s'intéressera dans celui-ci à la longue période qu'il a passée dans l'opposition face aux travaillistes. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
June 12th, the world will unite. 48 nations, 104 matches across 3 countries. The FIFA World Cup 2026 kicks off June 12th on SBS.